François Hellebrun, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
François Hellebrun, vous êtes professeur affilié à Sciences Po Paris. Alors, plusieurs sujets d'actualité ont retenu votre attention ces derniers jours et nous allons les commenter ensemble. Alors, on va commencer tout d'abord par une figure majeure du dialogue interreligieux, le frère Louis-Marie Coudray, qui vient de se voir attribuer le prix Hubert Hellebrun 2025 de l'amitié judéo-chrétienne de France. La cérémonie de remise du prix a eu lieu hier soir à la synagogue de la rue Buffault. Inlassable bâtisseur de ponts, ce moine bénédictin vit depuis plus de 40 ans dans le monastère d'Abou Ghosh, près de Jérusalem.
Tout à fait, et j'étais très heureux de la remise de ce prix, où évidemment j'ai assisté. C'est un prix qui a été créé en 1988 par mon père, c'est pour ça que l'Amitié judéo-chrétienne de France a nommé ce prix, le prix de l'Amitié judéo-chrétienne de France, Hubert Hellebrun. Il y a deux ans, en 2023, mon père était encore vivant à l'époque, et il avait été très touché que ce prix qu'il avait créé en 1988 porte aussi son nom, et depuis il est décédé, évidemment, c'est un moment émouvant pour moi-même, mes sœurs, nos enfants, d'assister à ce prix. Et cette année, nous étions très heureux, comme vous l'avez dit, que ce prix soit décerné au frère Louis-Marie Coudray, qui est un pont, une passerelle, un veilleur, un guetteur, un ami entre les juifs et les chrétiens, à la fois en Israël, où il habite sur la terre d'Israël, à l'abbaye d'Abou Ghosh, qui se trouve au début des collines pour monter vers Jérusalem, où la messe est en hébreu et en araméen. C'est un endroit assez extraordinaire, où dans un village musulman, où il y a le minaret pas loin, des musulmans arabes qui en 1948 se sont mobilisés pour être attachés à Israël d'ailleurs, et ça on ne le rappelle pas. Et le frère Louis-Marie Coudray, au-delà de sa présence pendant 40 ans sur la terre d'Israël, a été aussi consulteur de la commission des relations avec le judaïsme du pape Jean-Paul II, mais aussi responsable de relations avec le judaïsme à la conférence des évêques pendant 3 ans à Paris. Et donc c'est vraiment quelqu'un de brillant, d'amical, de lucide. Et pour conclure sur ce très beau prix qui lui a été remis par le lauréat de l'année précédente, le professeur Carole Yankou, après un très bel hommage rendu par le président de l'Amitié judéo-chrétienne, le professeur Jean-Dominique Durand, et par le grand rabbin Olivier Kaufmann, il a dit une phrase qui m'a beaucoup frappé, justement. Il a eu des propos politiques, c'est un frère, c'est un catholique, c'est un prieur, mais il a eu des propos politiques, lui qui vit en Israël depuis 40 ans, qui connaît bien Israël, qui aime Israël. Il a dit, on cite souvent le psaume où on dit que pour avoir la paix, il faut la justice. Et il dit très souvent, on oublie de citer dans ce psaume de la Torah qu'il faut avoir la paix, la justice, mais aussi l'amour et la vérité. Et en parlant du conflit israélo-palestinien, il dit oui, on peut demander la paix et la justice, mais tant qu'il n'y a pas amour et vérité, nous ne marcherons pas ni vers la paix ni vers la justice. Et il a dit, et peut-être ça introduira nos autres sujets, il a dit, eh bien, nous n'avons pas d'amour et de vérité, puisque du côté palestinien, il n'y a que haine et mensonge, que des tombereaux de haine et des tombereaux de mensonge. Et donc, c'est à partir du moment où on pourra évoluer vers cela que la paix et la justice, peut-être, et nous l'espérons, régnera sur la terre d'Israël.
Alors, autre sujet, deux universités françaises qui font parler d'elles et pas en bien. L'université Lumière Lyon 2 a officiellement signalé au procureur de la République son professeur Julien Théry suite à la polémique qui secoue l'établissement depuis plusieurs jours. Dans une publication, ce professeur d'histoire médiévale reprend une liste de 20 signataires d'une tribune qui était parue en septembre dans le Figaro et qu'il présente comme des génocidaires à boycotter en toutes circonstances. Et face à l'ampleur de la controverse, la direction a donc décidé de saisir le procureur de la République au titre de l'article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale. Et puis une autre université, cette fois la Sorbonne, qui a saisi il y a quelques jours, là encore, le parquet de Paris au titre de l'article 40 après la diffusion lors d'un cours magistral de médecine à la faculté de santé de propos à caractère raciste et antisémite, 6 enseignants et une centaine d'étudiants ont été exposés durant ce cours à des propos explicitement racistes faisant l'apologie du nazisme affichés sur l'écran de l'amphithéâtre suite aux réponses formulées par l'outil WooClap qui est utilisé lors de l'enseignement dans cette faculté.
Oui, alors c'est à la fois pas surprenant, mais ce qui est intéressant, c'est les réactions musclées des présidents d'université dans les deux cas. Tout d'abord, parlons de Julien Théry à l'université de Lyon 2. L'université de Lyon 2 avait déjà fait part d'elle, puisque c'est celle-là où des étudiants s'en étaient pris à un professeur qui osait critiquer le régime syrien, et professeur qui avait dû être mis sous protection. Donc ce n'est pas une université anodine, Lyon 2. Deuxièmement, ce professeur, Julien Théry, est un médiéviste, mais c'est surtout un militant politique de la France insoumise, actif, très actif sur le Média, qui est la chaîne de télévision YouTube de la France insoumise, et c'est un fanatique de la haine antisioniste, et d'ailleurs, depuis qu'il a publié cette soi-disant liste de génocidaires, beaucoup de gens et des experts en analyse numérique ont étudié ses postes, et dans ses postes, il a une obsession maladive d'antisionisme forcené. Je peux vous lire une phrase. Les trois postulats fondamentaux du sionisme contemporain, à savoir l'existence d'une nation réunissant tous les juifs, sa vocation à édifier un état-nation et le droit de ce dernier à un territoire en Palestine, ne sont pas défendables en dehors de forts partis pris idéologiques assortis de falsifications historiques. Ça veut dire, si on traduit son verbiage soi-disant d'universitaire compétent, ça veut dire les juifs n'ont aucun droit sur l'État d'Israël, c'est non défendable, ce sont des falsifications historiques, et donc l'État d'Israël n'a pas le droit d'exister, et le sionisme est un mouvement criminel. Donc voilà ce monsieur qui fait des listes. Alors sa liste, elle est assez intéressante, parce qu'il a repris, en fait, la liste de 20 militants juifs, intellectuels, chefs d'entreprise, personnalités, 20 personnalités qui s'étaient adressées au président de la République pour critiquer sa reconnaissance de l'État de Palestine sans condition. C'était juste ça, cette reconnaissance de l'État de Palestine sans condition. Il mettait d'ailleurs un certain nombre de conditions que le président de la République a lui-même énoncées. Déposer les armes pour le Hamas, libération de tous les otages, etc. etc. C'est sous la plume de ce Julien Théry, ces personnalités étaient devenues 20 génocidaires à boycotter. Donc c'est intéressant, c'est l'utilisation du terme génocidaire, c'est-à-dire que dès qu'on prend une position hostile au discours de LFI, discours criminel de LFI sur son soutien au Hamas, on devient un génocidaire. C'est intéressant, cette utilisation de l'accusation. Et effectivement, ce qui est aussi très intéressant dans son attaque, c'est sur cette liste de 20 personnalités, il y a une quinzaine de personnalités juives. Donc effectivement, on peut considérer que faire des listes de juifs à boycotter est un appel à un boycott qui s'entache d'antisémitisme. Donc c'est très grave et c'est très bien que la présidente de Lyon 2 ait saisi le procureur et j'espère qu'il sera poursuivi. Évidemment, Jean-Luc Mélenchon est monté à sa défense en disant que c'était une atteinte à la liberté économique, une atteinte à la liberté d'expression, que c'était l'extrême droite qui voulait museler la liberté. Mais à nouveau, Jean-Luc Mélenchon s'enfonce encore plus dans l'ignominie et la crapulerie quand il défend des militants de chez lui qui font des listes de juifs à boycotter. Sur l'autre affaire de Sorbonne, ce qui est intéressant aussi de Paris 1, c'est que là aussi, la présidente de l'université saisit le procureur, s'engage très formellement. Et évidemment, c'est absolument scandaleux que dans un cours de médecine, ou même dans n'importe quel cours, l'apologie du nazisme, du racisme, de l'antisémitisme s'exprime. Mais là, à nouveau, on a quand même, une République qui réagit et qui ne se laisse pas faire. Mais j'espère qu'au-delà de ça, au-delà des saisies de la justice, les condamnations seront sévères, car effectivement, ces comportements entache l'image et la qualité de notre université.
Alors, autre sujet qui pourrait être lié à ce que nous venons de dire, les journalistes Nora Bussini et Emmanuel Razavi ont annoncé déposer plainte contre le député LFI Paul Vannier. Ce dernier, à l'instar de plusieurs figures du mouvement insoumis, a fustigé les conclusions d'un sondage IFOP commandé par le magazine Écran de veille, et qui fait état d'une radicalisation accrue chez la nouvelle génération. Parmi les chiffres très commentés, 59% des jeunes musulmans souhaite par exemple l'application de la charia en France. L'enquête a suscité une levée de boucliers dans les rangs de la gauche radicale, dont celle du député LFI du Val-d'Oise, qui, après avoir chargé à plusieurs reprises l'Institut de sondage, a directement ciblé dans un tweet les membres de la revue, au premier rang desquels Nora Bussini, qui avait publié en septembre dernier « Les nouveaux antisémites », un ouvrage sous forme de récit de son infiltration dans les rangs de l'ultra-gauche et qui dévoile des dérives antisémites, notamment depuis les massacres du 7 octobre 2023 en Israël. Et puis le journaliste Emmanuel Razavi, déjà ciblé par LFI, a lui aussi annoncé déposer plainte à l'encontre de Paul Vanier pour diffamation. Dans son ouvrage « La pieuvre de Téhéran » paru cette année, il a révélé les liens entre certains responsables de la gauche et des agents du régime iranien.
Tout à fait, c'est une affaire à la fois écœurante et passionnante. Écœurante parce qu'effectivement, deux députés de la République, deux députés de la France insoumise, Paul Vanier Val-d'Oise et Bastien Lachaud de Seine-Saint-Denis, ont mis des cibles dans le dos de journalistes, de sondeurs et de magazines. Ils ont fait un processus qui rejoint un peu celui de Julien Thierry, mais en allant encore plus loin, ils ont accusé le sérieux de l'étude sur l'islam faite par l'IFOP, et en plus c'est une étude qu'ils font depuis une trentaine d'années, et la première personne qui leur avait commandé cette étude, c'était Edwy Plenel, qui était directeur du Monde à l'époque. On ne peut pas dire qu'Edwy Plenel est anti-musulman dans aucune manière que ce soit. Ils ont donc attaqué le sérieux de l'étude et ils ont attaqué, comme vous l'avez dit, Nora Bussini, très courageuse journaliste, et Emmanuel Razavi, aussi très courageux journaliste, parce qu'ils travaillent pour ce média, Écran de veille, qui a publié ce sondage. Ce sondage est très bien fait, très sérieux, et donne effectivement des résultats inquiétants sur la radicalisation de la jeunesse musulmane en France, puisque ça révèle par exemple que 42% des jeunes musulmans de 15-24 ans éprouvent de la sympathie pour les mouvements islamistes, et 57% estiment que la charia doit primer sur les lois de la République. Et on voit d'ailleurs, en regardant le détail du sondage, qu'il y a une séparation très très forte par tranche d'âge, c'est-à-dire que cette radicalisation touche justement la jeunesse de 15-24 ans, et qu'au-delà de 50 ans, les musulmans français, heureusement, sont très républicains, très intégrés, et au contraire condamnent les mouvements islamistes. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que, comme toujours, quand on veut renier qu'il y a de la fièvre, on accuse le thermomètre et on le casse. C'est un peu ça, mais là, il casse plus que le thermomètre, puisque en publiant l'adresse de Écran de veille, aujourd'hui, les journalistes de Écran de veille ne peuvent plus se rendre à leur journal. Cela nous rappelle des sinistres mémoires, ce qui s'était passé avec Charlie Hebdo. Ils sont mis sous protection policière. Nora Bussini a été placée sous protection policière, cette jeune journaliste brillante et courageuse. Et c'est absolument scandaleux. Et donc, il y a eu des plaintes qui ont été déposées. Et évidemment, ces deux députés LFI sont soutenus par toute la mouvance LFI, de Thomas Porte à Mathilde Panot et évidemment à Estelle Soudray, comme d'habitude. Mais pourtant, les liens montrés avec les frères musulmans, avec la mouvance islamiste par ces journalistes, est absolument clair. Et qu'effectivement, il y a une radicalisation de la jeunesse musulmane. Heureusement, il y a eu des députés qui se sont mobilisés sous évidemment la houlette du coup la courageuse Caroline Yadan, qu'il faut toujours saluer, et elle a fait signer une pétition par 50 députés qui ont appelé justement à des poursuites judiciaires très fermes contre les deux députés de la France insoumise qui ont mis en danger la vie de consoeurs et de confrères journalistes et qui remettent en question, en fait, tout discours qui est contraire à leur stratégie électorale. C'est vraiment de la dictature, des techniques de terreur et de terreur à l'ère des réseaux sociaux et de la rapidité de la propagation de la haine sur les réseaux sociaux, très inquiétant. Et nous ne partons pas de nulle part en France. Nous avons eu Charlie Hebdo, nous avons eu Samuel Paty, nous avons eu Dominique Bernard, c'est-à-dire des journalistes, des professeurs assassinés pour leurs opinions quand ils osaient critiquer la radicalisation islamiste en France. Et il y a aussi une très belle tribune dans le Figaro ce matin de soutien d'un certain nombre de députés, principalement républicains, à ces journalistes et appelant à une très grande fermeté de la justice contre ces dérives de deux députés sur ces sujets-là.
François Helbron, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom. Je rappelle que vous êtes professeur affilié à Sciences Po Paris. Merci, bonsoir.
Bonsoir Pierre.